Si tu es inscrit au mail privé d'Outils du Manager, tu sais déjà qu'en ce moment, la formation Cœur d'Outils du Manager est en promotion. Pendant une semaine, tu économises 30% sur le manager essentiel en passant commande avec le code MÉTHODE. Pour découvrir le programme, clique sur le lien du catalogue en descriptif de ton épisode. Et si tu souhaites t'inscrire au mail privé, tu trouveras également un lien en description. Bonne écoute.
Cette semaine, l'entreprise 100% remote. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Cette semaine, je te propose une rencontre avec Romain Collignon. Le job de Romain Collignon, c'est de faire passer des infopreneurs d'un chiffre d'affaires de 5 chiffres à 6 chiffres, puis de 6 chiffres à 7 chiffres ou plus. Et ce qui m'intéresse particulièrement chez Romain, c'est que sa boîte a toujours fonctionné en 100% remote, c'est-à-dire 100% télétravail. Au programme, comment créer une culture d'entreprise sans jamais se rencontrer? Qu'est-ce qu'un infopreneur? Est-ce que la semaine de 4 heures de Timothy Ferris est possible? Pourquoi il est impératif qu'un infopreneur embauche et délègue? Comment structurer ton entreprise pour générer de la croissance? Comment trouver ton binôme idéal? Comment générer des héros chez tes collaborateurs? Et puis, on te proposera tous les outils et les méthodes de Romain, c'est-à-dire les discussions qu'il a avec ses collaborateurs, même en mode remote, un outil qu'il appelle le 15-5 et que j'utilise aussi, le 4-4 et les 4 niveaux de délégation. Bref, plein de choses pour enrichir ton management. Bonjour Romain.
Salut Cédric.
Comment vas-tu?
Eh bien, écoute, très très bien, très heureux d'être sur ton podcast.
Ben oui, et moi très très heureux de t'accueillir. On va commencer comme d'habitude. Hein, tu es pas forcément connu des auditeurs d'Outils du Manager, donc est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu as fait?
Ok, alors grand plaisir. Écoute, je suis entrepreneur depuis 2008. Je suis le mari de Lauriane, le papa d'un petit garçon de 2 ans et bientôt d'une petite fille qui arrive là, qui est en livraison dans quelques semaines.
Ah, génial. Je ne savais pas. Félicitations.
Et ben, je te remercie. Et voilà, sinon j'habite sur Paris et on a dans l'entreprise une équipe de 12 collaborateurs. On travaille avec des clients qui sont des entrepreneurs en ligne. Avec cette spécificité, et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter aujourd'hui, hein, la spécificité d'avoir des équipes remote, donc des équipes à distance, où le management est peut-être différent de ce que tu as l'habitude de discuter sur le podcast. Donc nos clients, les entrepreneurs en ligne, ont cette particularité d'avoir un savoir-faire, une expertise, alors des expertises aussi mainstream que la perte de poids ou l'investissement immobilier, que des fois des expertises un peu exotiques comme les relations hommes-femmes, ce genre de choses. Et ils vendent leur expertise en ligne à travers des formations en ligne ou du coaching. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de les aider à professionnaliser toute leur entreprise, à la fois dans la construction de leur business model, mais aussi dans la structuration de leur boîte, donc à distance pour leur entreprise.
Oui, tout à fait. Tu as une grosse composante. Moi, c'est ce que je connais de toi. Structure, c'est-à-dire que tu es très quelqu'un très structuré et quand tu parles, et c'est peut-être un point commun qu'on a tous les deux d'ailleurs, c'est que tout la réussite des boîtes, on est convaincus tous les deux qu'elle repose avant tout sur la bonne structure. Est-ce qu'il y a une actualité en dehors de ton actualité de futur deuxième papa? Est-ce qu'il y a une actualité au niveau professionnel que tu voudrais partager avec nous?
En termes d'actu, alors c'est souvent ce que on pose la question, c'est quoi les trucs nouveaux que tu es en train de mettre en place ou ce que tu es en train de faire? Et j'aime bien citer Bezos pour l'occasion, qui est toujours en train de se demander, lui, qu'est-ce qui ne change pas? Et nous, on est une entreprise qui est plus de ce côté-là, c'est qu'est-ce qui ne change pas et qu'est-ce qu'on améliore? Donc, on est très focus aujourd'hui sur nos deux communautés d'entrepreneurs que l'on accompagne, puisque effectivement, quand on parle de structuration, plus c'est structuré, plus la croissance, elle est là. Donc là, en ce moment, on est surtout sur une actu de structuration de nos programmes. Petite actu, c'est qu'on va justement lancer un podcast qui s'appelle Structure. Donc tu vois, c'est marrant que tu aies parlé de structure parce que effectivement, pour moi, tu peux pas avoir une entreprise qui croit ou même des, des hommes et des femmes qui se développent dans l'entreprise si tu n'as pas une structure derrière pour supporter ça.
Tout à fait. OK. Donc, c'est ça les prochains projets de ta boîte. Comment s'appelle ta boîte ou comment s'appellent tes boîtes?
Alors, la boîte s'appelle Arc Diffusion, mais très peu connue, puisque finalement, nos marques sont autour des deux programmes dans lesquels sont nos clients. Et les deux programmes s'appellent l'Incubateur 56 et le Mastermind 67. Voilà, une petite anecdote sur les chiffres. C'est vrai que dans notre écosystème de l'entrepreneuriat en ligne, on parle souvent de passer d'un chiffre d'affaires à 6 chiffres vers un chiffre d'affaires à 7 chiffres annuels. Donc, c'est un petit clin d'œil, les chiffres que l'on a dans le nom de nos programmes.
D'accord, OK. OK, donc on va parler de management. Et les caractéristiques que je vois, évidemment, dans ce que tu présentes, c'est que tu as des équipes remote. Et ça m'intéresse. Quand on a parlé de faire un podcast ensemble, tu m'as dit un truc, moi, qui m'a interpellé, c'est qu'en fait, contrairement à la plupart des entrepreneurs, toi, tu n'avais jamais travaillé autrement qu'en remote. Alors qu'en général, moi, les gens que j'accompagne ou bien les auditeurs en général, ils sont plutôt actuellement percutés par le fait de devoir travailler à distance. Et éventuellement, souvent, ils en voient les inconvénients et aussi la perte de repères que ça peut engendrer, sans forcément en voir immédiatement les avantages, parce qu'il y a plein d'avantages aussi à avoir la capacité à travailler en remote. Donc peut-être qu'on peut commencer avec cet angle-là, et tu peux peut-être nous partager ton expérience là-dessus, et puis surtout peut-être nous donner quelques trucs, ou plutôt ta philosophie en général sur le sujet.
Oui, alors j'ai cette discussion-là avec d'autres entrepreneurs aussi, hein, qui ont eux leurs équipes en dur avec eux, et souvent le point commun que l'on retrouve, c'est la culture d'entreprise. J'ai le sentiment qu'à chaque fois, on débat là-dessus, sur la culture d'entreprise est beaucoup plus facilement diffusable quand on a une équipe avec soi, puisque finalement, la culture d'entreprise, c'est au jour le jour qu'elle se vit. Et on pourrait se poser la question d'avoir des équipes à distance, si on peut avoir le même genre de choses. Je t'aurais dit, il y a peut-être quelques années, c'était plus compliqué, mais aujourd'hui, en fait, tout est encore une fois une question de structure, une question de communication aussi, puisque c'est vrai que quand on est tous ensemble dans le même endroit, dans la même entreprise, la communication se fait à la fois sur les projets qu'on développe dans l'entreprise, mais aussi dans les temps informels. Et quand je parle de structure, c'est comment tu peux structurer au sein d'une équipe à distance ce même genre d'événement qui pourrait se passer en vrai. Donc ça, c'est les deux points. Et le troisième point, ça va être les outils aussi. Et je pense que pour pouvoir avoir une équipe à distance et créer cette culture d'entreprise, nous on a une très belle culture d'entreprise au sein de la boîte, c'est aussi par les outils qu'on utilise et puis les rendez-vous que l'on a, même s'ils sont à distance. Pour te dire, je suis basé à Paris, notre plus éloignée collaboratrice est au Mexique, donc sur des fuseaux horaires qui sont différents. Alors peut-être un des avantages que je peux te partager ici, c'est que au final, on a des collaborateurs sur quasiment tous les fuseaux horaires de la planète, même si on travaille essentiellement avec des clients en France. Mais ça présente certains avantages.
Ouais, quand tu as des gens qui travaillent en décalé ou qui ont besoin d'une réponse, c'est sûr. Donc c'est intéressant. Et donc, toi, tu as structuré très très fort cette partie. Tu as structuré des choses que peut-être habituellement, on pense pas à structurer quand on est sur le même site. Alors, moi aussi, hein, mon approche là-dessus, je dis c'est juste que on pense pas à le structurer, parce que moi, je pense que les usages du travail remote, ils peuvent être utiles aussi lorsqu'on travaille ensemble, parce que ça oblige quelque part à structurer fortement le management et de passer d'un management diffus, c'est-à-dire on est tout le temps tous ensemble, on surveille, on sait ce que fait l'autre, etc., à une forme de management, en fait, qui est plus structurée.
Ouais. Bah, écoute, je te suis là-dessus. Le côté structure, en fait, quand tu es à distance, tu es obligé d'y passer. C'est-à-dire que si tu n'y passes pas, ça peut très rapidement devenir le chaos. Enfin, j'imagine, en tout cas, je sais que moi, je mets beaucoup d'efforts et d'attention à faire en sorte qu'il y ait une vraie structuration pour accompagner, par exemple, le développement des collaborateurs, pour accompagner leur productivité, pour accompagner tout un tas de choses. Et n'ayant pas, comme tu disais, l'expérience d'avoir dirigé une boîte avec les équipes sur place. Je pourrais pas dire ce que j'aurais fait différemment. Dans tous les cas, le remote oblige à la structure si on veut vraiment que ça fonctionne bien.
Alors, comment tu fais ? C'est-à-dire que, pour moi, il y a différents rituels, peut-être. Enfin, je sais pas comment tu appelles ça dans ta boutique, mais tu parles de la communication, de l'interaction. Pour moi, c'est un angle. Mais il y a aussi le développement des collaborateurs. C'est quoi chez vous, en fait, comment tu détectes leurs besoins ou comment ils manifestent leurs besoins ? Je ne sais pas dans quel sens ça se passe. Mmh. C'est quoi un petit peu vos rituels ?
Alors, on a des rituels qui sont basés sur des cadences, soit hebdomadaires, soit mensuelles, soit trimestrielles, voire même annuelles. Donc déjà, quand on parle de structure, il y a la structure temporelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent. Pour te dire, juste après le podcast, on a une retraite d'équipe qui est virtuelle.
D'accord. Okay.
D'accord. Donc ça se passe sur Zoom. On fait les choses différemment. Un jour, j'espère qu'on pourra en faire en présentiel aussi, parce que l'intérêt d'une retraite d'équipe, c'est aussi de pouvoir partager des expériences et des émotions. Hein, c'est ça qui crée le lien. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est la retraite d'équipe cet après-midi. Donc voilà, il y a une réutilisation finalement des moments importants comme début de semaine, tous les lundis matins, ce meeting avec l'équipe. Alors tu m'excuseras, j'utilise pas mal de termes anglais. J'arrive pas à trouver les termes en français comme ça sur le moment, mais on a la leadership team là qui se réunit tous les lundis matins. On a aussi des points mensuels avec les différents départements d'entreprise et puis des points trimestriels avec mon directeur, mon CEO. Sur lequel on va vraiment plus parler de stratégie, ça c'est mensuel. Mais c'est vrai que cette structuration des meetings, pour moi, c'est clé de base. Et au sein même de chaque meeting, on a vraiment un agenda qui est très structuré. On utilise depuis maintenant 3 ans, je ne sais pas si tu connais EOS, de Gino Wickman. C'est un système opératoire en fait, qui est assez facilement... applicable pour toutes les entreprises qui souhaitent être à distance. Donc on utilise ce système-là.
C'est un petit peu, chez Outils du Manager, l'équivalent du système qu'on met en place quand on met en place le management par objectif. C'est-à-dire que tu as un organigramme, évidemment, avec des missions, mais là-dedans, tu injectes des objectifs qui sont stratégiques, tactiques et semaine par semaine. Avec un suivi qui respecte les temporalités de chacune des choses. Le temps stratégique, le temps tactique et le temps hebdomadaire. Donc ça doit être assez proche, je pense.
Oui, c'est proche. Et je pense, de toute façon, c'est ça que j'ai pu remarquer, c'est que peu importe les termes qu'on va utiliser, c'est l'expérience et l'appropriation, finalement, des outils comme les tiens qui font que ça fonctionne. Parce que sur le papier, finalement, les tendances peuvent être très similaires. Et puis après, l'idée, c'est qu'on implémente une structure, une implémentation, par exemple, de meeting comme ça. C'est juste de garder le cap. Et je crois que c'est ça, pour moi, l'un des plus importants, choses les plus importantes dans le management d'une team par équipe, c'est que tous ces rendez-vous-là, ils soient dans l'agenda, mais sur des semaines, des mois et des trimestres à l'avance, quoi. C'est vraiment un rendez-vous pour tout le monde et où on a plaisir de se retrouver. Tu as posé la question tout à l'heure, ça me reste dans un coin de la tête, de ce que l'on fait notamment pour développer les collaborateurs, ce genre de choses, au-delà des rencontres. Moi, il y a 2 outils qui me viennent en tête. C'est marrant, je viens de me rendre compte, tu utilises le mot outil tout le temps. Comme quoi.
Tu t'es bien conditionné avant.
Ouais, je suis déjà conditionné par ton podcast. On utilise un outil qui s'appelle 15-5. Encore une fois, c'est un outil américain, mais qui nous permet à la fin de chaque semaine, de prendre la pulsation ou le pouls finalement de chaque membre de l'équipe. Donc c'est un outil où chaque personne va partager qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment on pourrait améliorer mon rôle personnellement, comment on pourrait améliorer l'équipe, où est-ce que j'ai le plus de difficultés, mes challenges. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est structuré, hein, le contenu de cet outil, de ce rapport.
Comment tu l'appelles ?
15-5, donc c'est un 15 et 5, F-I-V-E. Tu as plusieurs outils comme ça. Mais ça, c'est le truc que tu pourrais avoir. Tu vois, c'est un échange que tu pourrais avoir autour de la machine à café ou le vendredi soir avec ton supérieur ou ton manager. Pour savoir comment s'est passé la semaine et quels objectifs tu auras pour la semaine suivante. Bah, ça, on est obligé de le faire en remote. Donc, tu vois, chaque collaborateur a une tâche tous les vendredis qui apparaît dans leur logiciel. Et nous, ça me permet d'avoir moi et mon CEO, d'avoir la pulsation de ce qui se passe dans l'entreprise. Et c'est vraiment nickel pour pouvoir apporter assez rapidement un soutien, de l'écoute, puisque finalement, la pire des choses peut-être, c'est quand un collaborateur va apporter une idée d'amélioration, à la fois pour son propre rôle ou pour l'entreprise, et que tu ne l'écoutes pas, tu vois. Parce que tu le fais une fois, tu le fais deux fois, troisième fois, tu te dis à quoi ça sert.
Oui, c'est ça. C'est encore un point commun. Moi, j'utilise un outil que j'appelle le 15-5, c'est quand même marrant. Mais moi, 15-5, ça veut dire 15 minutes pour le préparer, 5 minutes pour le lire. C'est ça, c'est la même chose.
Ouais,
d'accord.
Exactement. Ouais, ouais. Moi, je pense que ça a des sources communes, finalement, tu vois. Là. Ouais, ouais. Donc, voilà, ouais, ça, c'est un outil. Et puis, là, il y en a d'autres, mais il y en a un autre là qu'on est en train de. Et c'est très nouveau, c'est pour ça que je suis assez heureux de le faire. C'est le même genre d'outil, mais pour le trimestre. Voilà, c'est une discussion que j'ai avec chaque collaborateur d'une demi-heure, sur lequel, en fait, pendant le trimestre, plutôt que faire des retours, si tu veux, bon, quand tu as un collaborateur qui travaille bien, c'est toujours important de le mettre en avant. Mais quand ça va pas très bien sur certaines choses, c'est important aussi de le dire, mais de le dire dans un contexte d'amélioration et de productivité. Et là, on a mis en place un nouvel outil trimestriel qui est une discussion d'une demi-heure sur lequel, voilà, je vais lui partager comment dans ton rôle, dans tes responsabilités, tu peux être un héros pour moi. Vraiment le mot héros. Mais aussi, qu'est-ce qui me rend fou dans ce que tu fais. Et depuis qu'on a mis en place ça, si tu veux, c'est une feuille, ça tient sur une feuille A4, et ça donne vraiment une direction pour chaque collaborateur dans le trimestre, tu vois, les grandes lignes de comment ils peuvent être, comment ils peuvent réussir dans leur rôle. Et c'est vrai que moi, il y a un certain moment, des fois, je pouvais être un peu frustré sur certains passages, tiens, ah, ça, ça ne correspond pas à nos valeurs, mais je n'avais jamais eu la discussion avec eux, tu vois.
Ouais.
J'ai eu tout le temps d'avoir la discussion.
En général, ce qui te rend fou chez un collaborateur, c'est quand il viole une valeur, mais que tu n'as pas forcément exprimé. Et donc, c'est l'occasion de le faire en bienveillance, mais en étant ferme quand même. Et alors, à nouveau, c'est marrant parce qu'on a quand même des éléments de discours qui sont... Moi, le podcast qui a le plus été téléchargé, celui que j'ai le plus, où on a le plus de succès, il s'appelle « Faites de vos collaborateurs des héros ». Donc, c'est drôle. Ah. Là encore, c'est le... Et ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu viens de dire, c'est que tu es quelqu'un de structuré, hein. Tu mets en place des structures, des rituels, des machins. Donc on pourrait se dire, ok, tu enlèves toute la part d'héroïsme aux collaborateurs, puisqu'en fait, tu le fais rentrer dans un système. Et une boutique qui marche bien, c'est une boutique qui fait 80% de process et de structure et 20% de héros. Et c'est là que tu tires la quintessence, parce qu'en fait, tes systèmes, finalement, il faut qu'ils soient... qu'ils aident tes collaborateurs à devenir des héros. Et c'est ça qui est très difficile à réaliser dans une entreprise.
Ah bah oui, le système, c'est pas une prison, bien au contraire. Et là, je vais reprendre Picasso qui disait maîtriser les règles comme un pro pour pouvoir les briser comme un artiste. Et donc, si tu veux, les systèmes, c'est vraiment pour permettre aux collaborateurs limite de se mettre en pilote automatique sur des choses. Voilà, du quotidien, pour pouvoir avoir ce temps qui se libère, pour pouvoir être des héros et créatifs.
Tout à fait d'accord avec toi. T'as un référentiel, c'est comme ça qu'on fait les choses chez nous. Par contre, tout d'un coup, t'as un client qui a un problème et ton référentiel colle pas à la situation du client. La priorité, c'est le client, évidemment. Là, tu violes le référentiel. Et plus tu le fais, plus tu te dis, bah, mon référentiel, faut peut-être le faire évoluer un petit peu.
Génial, bah oui.
Et alors, il y a un autre truc dans ce que tu as dit, qui m'intéresse. Tu as dit la culture, c'est ce qui se passe tous les jours en fait dans l'entreprise. Et effectivement, je rejoins ça. Moi je dis souvent la culture, c'est pas ce que t'écris sur la brochure de ta boîte ou sur ton site web. Pour moi, la culture, c'est la somme des comportements qui ont lieu dans l'entreprise. Et là on peut se poser une question quand on est en remote, c'est de se dire ouais, mais là quand je suis en remote, je vois pas tout ce qui se passe dans ma boîte. Je sais pas à quelle heure les gens travaillent. Je sais pas comment vraiment ils traitent les clients, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, tu disais un risque d'éclatement, puis, ou un risque qui, moi, pour moi, est plus important, parce qu'un éclatement, tu le vois arriver assez vite, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, tout d'un coup, de laisser aller, d'éloignement par rapport aux valeurs, d'éloignement par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés? Qu'on corrige inconsciemment quand on est dans la même pièce ou dans la même boîte en disant bah tiens t'es pas arrivé à l'heure. Je prends cet exemple, c'est peut-être pas un très bon exemple, mais ou bien tu sais ici ton langage il pourrait être un peu plus sympa, etc. Chose que tu peux plus difficilement faire que quand tu es en remote. Comment tu mesures en fait?
Ouais, comment je mesure? J'ai l'impression que t'as deux trois sujets dans ce que tu as partagé sur le côté culture. ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, je et puis dans l'équipe, on met beaucoup d'efforts dessus. Peut-être plus que si on était dans la même pièce ou dans la même entreprise. Un exemple, dans l'agenda de notre retraite d'équipe, c'est ce qu'on appelle en anglais core value shout-out. Alors, c'est en anglais, mais en français, ça serait... en fait, on va montrer du doigt, on va plutôt fêter un des membres de l'équipe qui a mis en avant une des valeurs cœur de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière trimestrielle. Et chaque membre de l'équipe va dire « Ah, j'ai vu machin, il a fait ça, ça souligne telle valeur cœur. » Donc, on est de manière générale, je suis plus à aller montrer et à mettre en avant. Tu vois, ça vient activer un sentiment de fierté qui est important, hein, d'appropriation aussi des valeurs cœur. Quelqu'un qui va souligner une valeur cœur. Dès qu'il y a... et souvent, tu l'as mentionné tout à l'heure, quelque chose qui va me frustrer. Il y a plusieurs catégories des choses qui peuvent me frustrer personnellement, mais une d'entre elles, c'est quand la valeur cœur n'est pas respectée, puisque c'est l'ADN de la boîte, tu vois. Bien là, je souligne pourquoi je ne suis pas forcément en joie avec ce qui a été fait, tout simplement parce que ça ne va pas soutenir la valeur cœur. Et donc ça, c'est... mais ça, je le fais pas devant tout le monde, je le fais vraiment en one-to-one, parce que je veux vraiment... Enfin, ouais, c'est plus du coaching là-dessus. Et puis, quand il y a quelque chose qui ne va pas, parce que ça arrive aussi, ça m'arrive d'avoir des franches discussions, on fait ça sur Zoom, avec une approche de communication bienveillante aussi autour de ça. L'idée, c'est que chaque collaborateur puisse, moi inclus, puisse repartir avec l'esprit léger et puisse savoir exactement quoi faire. Mais moi, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup bossé, notamment ces 12 derniers mois, parce que j'aurais été plutôt du genre à dire « bon, c'est pas si grave que ça ». Mais en fait, quand on est en remote, plus tu accumules les trucs, plus à un moment, si tu veux, c'est une bulle. Tu vois, ça gonfle. Jusqu'au jour où tu exploses. Et quand ça explose, c'est pas bon.
Non, c'est ça. Chez nous, on a l'outil feedback dont on parle souvent.
Et le principe, comment il marche, le feedback?
Comment ça marche? Le feedback, alors, le principe hein, chez Outils du Manager, ce qu'on dit, c'est que chaque personne dans l'entreprise a un entretien d'une demi-heure chaque semaine avec son manager. C'est l'approche. Donc, dans un sens, le manager doit avoir un entretien d'une demi-heure avec chacun de ses collaborateurs. Et à l'inverse, il faut toujours que tu t'assures que dans ta boîte, tout le monde ait un entretien d'une demi-heure avec quelqu'un. C'est le moyen le plus simple de structurer ta boîte et de relier les personnes entre elles. Et il y a une autre règle qui est de dire jamais plus de 8 personnes par manager. Parce que c'est difficile. Quand on a soi-même du travail à faire, de manager, de prendre plus de 4 heures par semaine, etc. Ça, c'est le premier outil, c'est ce qui permet, si tu veux, d'avoir la récurrence de la communication, etc., etc. Et la deuxième chose, c'est que, au bout d'un moment, quand la confiance est établie à travers cet entretien individuel, on met en œuvre l'outil feedback. Le feedback, c'est comment je dis à mon collaborateur ce qui va et ce qui va pas. Donc, tu as deux types de feedback, positif, négatif. Et le feedback, c'est un protocole en 3 parties. Il y a un moyen de le dire à ton collaborateur pour que ça ne passe ni pour une récompense, ni pour une punition, parce que c'est pas le rôle. Et en fait, le truc, là, c'est de dire avec bienveillance. En fait, la vraie bienveillance, parce que tu sais, la bienveillance, on en entend parler tout le temps, c'est un terme un petit peu... Tu peux pas être contre la bienveillance. Non, moi, la bienveillance, j'aime pas. Il y a personne qui va te dire ça, sauf qu'on sait pas ce que c'est réellement. Pour moi, la vraie bienveillance, c'est savoir dire avec beaucoup de confiance et d'espoir, ce qui va pas. C'est-à-dire savoir dire positivement du négatif. Et voilà, et c'est ça. Et ce que tu dis, la bulle, c'est exactement ce qu'on veut éviter. Et c'est pour ça qu'on a cette fréquence de communication qui est très rapprochée. Et c'est pour ça qu'on a en permanence l'idée feedback. Qu'est-ce que je peux lui dire, soit pour le renforcer dans ce qui fait bien, soit pour le réajuster dans ce qui fait pas bien. Et l'image qu'on prend souvent, c'est la voiture. T'es sur une route, et en fait, quand tu roules, ton volant n'est pas fixe. Ton volant, il fait toujours un petit coup à gauche, un petit coup à droite, etc. T'attends pas d'être dans le fossé pour revenir sur la route. Ça, c'est ce qu'on fait quand on a un tempérament assez classique qui est de dire « Non, mais c'est pas très grave, finalement. Je vais vraiment attendre que ce soit grave pour le dire aux collaborateurs. » Sauf que quand tu le dis, quand c'est grave, tu crépilles les murs. Lui, il entend rien parce qu'il y a un contenu émotionnel qui est tellement fort que finalement, il est traumatisé par la manière dont tu lui parles. Il n'écoute même plus ce que tu lui dis, quoi. Donc, je pense que c'est ça que tu veux dire. Ce sur quoi tu as travaillé, c'est un peu ça. C'est savoir dire au fur et à mesure ce qui pourrait un peu partir en live, quoi.
Ouais, exactement. Tu soulignes le côté habitude. C'est aussi d'en prendre l'habitude parce que on peut être effrayé de le faire au démarrage, et c'est, voilà, c'est une compétence du manager à développer personnel, mindset. Parce que quand tu as l'habitude, après, ça te paraît normal de faire ça comme si tu prenais le thé ou le café. Et puis ça se passe toujours très, très bien quand tu as l'intention que tout le monde ressorte avec plus de légèreté derrière. Et puis, y a effectivement ce côté, si tu accumules la bulle, ben, des fois, tu vas citer un truc qui s'est passé il y a 3 mois. Mais tout le monde a oublié le truc, tu vois, il faut que ça soit dans les 24-48 heures, hein, sinon après, bon, plus c'est rapide, mieux c'est, quoi.
C'est ça, le feedback, on essaye toujours de faire le plus proche possible de quand l'événement s'est produit. C'est vrai que quand on est en remote, quelquefois, ça veut dire que ça doit attendre le 1-1. Comme il est toutes les semaines, au pire, il peut s'être écoulé 5 jours. Mais en général, quand tu fais un feedback, c'est qu'il y a un petit faisceau de choses qui sont à modifier chez le collaborateur. Est-ce que tu as déjà dû te séparer de collaborateurs?
Oui, ça m'est arrivé, ouais.
D'accord.
Ouais.
Tu te souviens de le trend, qu'est-ce qui peut t'amener à faire ça?
Alors, c'est la plus grosse, en fait, chose que je vois, c'est un désalignement par rapport aux valeurs cœur lors du recrutement. Où au final, des fois, tu recrutes parce que le timing est short et que, voilà, je pense que c'est un truc classique, mais tu vois le gain court terme et puis sur le long terme, tu te rends compte que c'était pas la meilleure idée. Donc ça, tu le corriges au fur et à mesure en essayant déjà dans ton process de recrutement à ce que ce soit vraiment des valeurs cœur. Et d'ailleurs, nos recrutements les derniers viennent de notre équipe. Tu vois, c'est du bouche à oreille, ce genre de choses. Donc t'as un certain alignement, si la compétence derrière est alignée aussi avec le job que l'on propose. Moi, j'ai vraiment vu la différence parce que les valeurs cœur si similaires. Donc, une culture d'entreprise, c'est plus facile d'entraîner quelqu'un qui a la même culture que toi d'entreprise, enfin, qui vit les mêmes valeurs, plutôt que d'avoir quelqu'un qui est très très bon en compétence, et on a eu ça, mais qui derrière, en fait, c'est quasiment impossible de... Je sais pas, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça?
Moi, j'ai dit, il faut les deux. Ouais. Tu sais, il y a la phrase en anglais, hire for attitude and train for skill. Bon, moi, je suis pas... Ok, c'est une belle formule. moi, je dis quand même, c'est quand même plus simple que la personne, à la fois, elle soit sur ce que tu appelles tes valeurs cœur, et à la fois, elle puisse prouver qu'elle a déjà fait le job dans le passé. En général, c'est le meilleur moyen pour s'assurer qu'elle va bien s'intégrer. Et la grosse erreur, enfin, je pense l'erreur qu'il faut pas faire en recrutement, c'est de croire que, ouais, mais j'ai une bonne culture d'entreprise, donc la personne, forcément, elle va se transformer dans mon entreprise. Moi, je pense que ça existe, ça arrive. Moi, je crois, c'est un upgrade qu'on vient de faire sur la formation recruteur d'élite, où j'ai intégré un truc que j'avais pas intégré tout de suite, parce que pour moi, c'était tellement évident, du coup, j'ai oublié de le mettre dans la formation. C'est justement déterminer les valeurs de votre équipe avant de faire le recrutement. Et en fait, en général, si tu prends quelqu'un qui a pas les mêmes valeurs, bah c'est comme une greffe. En fait, ton équipe va rejeter la personne. Du coup, toi, tu vas commencer à dire « Ah mince, ils rejettent la personne, je vais les convaincre qu'elle est bien quand même. » Donc, tu vas encore perdre du temps. Ça va générer un déphasage entre toi et ton équipe. Puis finalement, tu pourras pas garder la personne. Tu vas devoir refaire un recrutement. Enfin bref, au moment du recrutement, c'est quand même là que tu peux réinjecter du sang neuf dans ta boîte. Et donc, il faut que tu aies des gens qui vivent peut-être encore plus que les personnes que tu as déjà, les valeurs que tu auras déterminées. C'est vraiment important parce que ça peut... Ou bien, s'il y a une valeur qui est un peu faiblarde dans ton équipe, rajouter quelqu'un qui a cette valeur-là, et en plus les autres que l'équipe a déjà, c'est comme ça aussi que tu fais avancer ta boîte, quoi. Je suis complètement OK avec toi. Alors moi, il y a un autre truc qui m'intéresse vachement dans ton métier, c'est que moi je découvre un peu le métier d'entrepreneur web. C'est à la base, moi, tu sais, je suis chef d'entreprise boîte en dur, et l'activité outil du manager, c'est une autre activité plus récente pour moi, etc. Et donc je découvre ce monde-là que je connaissais pas du tout. Et alors moi, il y a un truc qui me pose un petit souci, c'est parce que je me renseigne, je suis pas mal d'infopreneur, tu les appelles comme ça peut-être aussi, ou...
Oui, infopreneur, ouais.
Et je trouve, je sais pas si ton avis aussi, mais que ils sont un peu allergiques à l'embauche. Et très souvent, d'ailleurs, ils sont sur le mode, ouais, t'étais un salarié frustré, bah maintenant tu vas devenir un chef d'entreprise complètement libre, etc. Et surtout, ça veut dire aussi que t'embaucheras personne, parce que embaucher des gens, c'est compliqué, puis tu veux pas leur faire vivre ce que toi, t'as vécu quand t'étais salarié. Et là, je suis super content, je trouve quelqu'un qui travaille avec ces gens-là, etc., qui me parle de structure, et en plus, qui a 12 collaborateurs. Donc, t'es un peu... Est-ce que tu es pas atypique dans le monde dans ce monde-là ?
Alors, je pense pas que je sois atypique, parce qu'il y en a d'autres, on est pas tous. Marginaux peut-être, mais c'est aussi, en fait, l'une des missions que l'on a dans l'entreprise, qui est justement de pouvoir apporter cette compétence à la professionnalisation. De manière globale, structuration, j'appelle ça aussi la professionnalisation du métier, hein. C'est pas parce qu'on est un entrepreneur en ligne qu'on n'a pas, on peut ne pas avoir une vraie entreprise derrière, une véritable entreprise, moi je dis. Mais simplement, effectivement, je pense que pour un certain nombre d'entrepreneurs qui se lancent en ligne, et encore une fois, on ne peut pas généraliser là-dessus, mais en tout cas, ceux que l'on voit le plus en termes de publicité, en termes d'affichage, ce sont cette génération effectivement anti-salariat. Je vis ma semaine de 4 heures au bord de la plage, voilà, à Dubaï, j'en sais rien, je caricature un peu le trait. Il y a un moment donné, même si on est allergique à l'embauche et à recruter, si on veut vraiment être libre, on est obligé. Moi, j'ai eu un gros game changer, notamment quand j'ai eu mon petit Sacha, hein, qui a eu 2 ans, où on avait une petite équipe. Et en fait, ça a été une merveilleuse contrainte. C'est-à-dire que ça a dû me... Voilà, j'étais déjà dans ce trend de structurer, d'avoir des collaborateurs. On n'en avait pas 12 à l'époque. Ben, je me dis, ouais, si je veux vraiment être libre et passer du temps avec lui, du temps en famille, pour moi, c'est sa liberté. Je suis obligé d'avoir une équipe. Et je trouve que, bon là, ça c'est mon point de vue, parce que ça se passe très très bien avec l'équipe, c'est que c'est la meilleure des aventures. Quand tu regardes ce que tu fais, ok, on génère du chiffre d'affaires, ok, on accompagne des clients, mais en fait, le plus fun dans tout ça, c'est au jour le jour, quand on est avec un membre de l'équipe et les expériences que l'on vit ensemble. Donc pour moi, j'étais seul pendant pas mal de temps quand même, parce que tu vois, je suis entrepreneur en ligne, j'ai commencé en 2008, j'ai généré mes premiers revenus en 2011, donc, ça a mis du temps, mais pendant 4 ans, j'étais seul. Donc j'ai connu les deux facettes.
Quand tu dis t'étais seul ou t'avais des freelances, comment ça marchait? Alors, en fait,
j'étais pendant très longtemps seul, ce qui peut paraître bizarre, mais si tu veux, de formation je suis ingénieur, donc si tu veux, le côté système d'ailleurs ça vient certainement de là. J'arrivais à créer des pages en ligne, j'arrivais à faire tout ça, avoir les différentes casquettes techniques, marketing, etc. Même si au bout d'un moment, ben, on peut pas tout faire, on a 24 heures dans la journée, hein. Mais oui, au départ, j'étais seul. Hein.
D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, tu as été obligé d'ajouter des compétences. Ça a été quoi ton processus, en fait ?
Ça a été... Alors, pour être transparent avec toi, j'avais pas de processus au départ. J'étais genre, je sens que je peux pas tout faire. Mais avec le recul, et c'est d'ailleurs c'est ce qu'on utilise aujourd'hui encore maintenant pour recruter, c'est qu'on va voir les niveaux de saturation de chaque collaborateur. Saturation à la fois en termes de tâches qui sont accomplies, mais aussi en plaisir d'accomplissement. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est qu'il y a certaines actions qui apportent de l'énergie, d'autres qui en enlèvent. Mais ce n'est pas parce que pour telle ou telle personne, ça va enlever de l'énergie que ça ne va pas en générer pour d'autres. C'est ce qu'on appelle un peu la zone de génie, ce genre de choses. Et ça, c'est ce que j'ai du mal à comprendre. Moi, il y a plein de choses qui, par exemple, classiques pour l'entrepreneur peut-être, l'administratif. Moi, c'est pas le truc qui m'énergise énormément. Par contre, Victoria dans l'équipe, c'est son truc, tu vois, les tableaux Excel, les Google Sheets, tout ça, elle s'éclate là-dedans. Et bah tant mieux. Donc moi, ça a été un grand changement de mindset en tant que entrepreneur, mais même manager, c'est de me dire qu'il y a certaines tâches qu'il faut enlever de certains collaborateurs pour qu'ils puissent faire plus de ce qu'ils aiment et du coup plus contribuer à l'équipe, à l'entreprise, et trouver quelqu'un pour qui ça va être sa zone de génie. Donc moi, ça, ce que je raconte, c'est avec le recul, hein. Je l'avais pas en tête.
Mais en fait, c'est parti de toi. C'est-à-dire qu'à un moment, tu t'es rendu compte que tu avais des tâches qui te enlevaient de l'énergie et d'autres qui t'en donnaient. Et ce sont ces tâches qui t'enlevaient de l'énergie que tu as sous-traitées en premier. Enfin, ou tu as, déléguées en premier.
Ouais. Ouais, okay. Ouais.
Oui, tout puis après, fait. Quand tu commences à construire ton équipe, tu te rends compte que tout le monde a des zones de génie et des zones de moins bon génie, on va dire.
La compétence, ouais.
Voilà. Et puis des forces et des faiblesses, hein, faut être clair. Et qu'il n'y a personne qui a que des forces ou que des faiblesses, et que finalement, l'équipe, c'est quand les forces des uns compensent les faiblesses des autres. Globalement, c'est ce qui est intéressant. Et effectivement, alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est, tu connais donc pas mal d'infopreneurs. T'en connais beaucoup qui font la semaine de 4 heures?
Non, faut raconter l'histoire derrière la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, mais non, en vrai, tous ceux qui ont une véritable entreprise, voilà, avec les équipes, tout ça, ils ne font pas la semaine de 4 heures. Mais peut-être qu'ils font 4 heures dans la... Ah, quoique, moi, aujourd'hui, peut-être que je fais la semaine de 4 heures dans le sens où je vais avoir 4 heures par semaine de choses que je n'aime pas forcément faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc associé au travail, vraiment associé. Tout le reste du temps, aujourd'hui, j'ai l'immense privilège par la construction de ce que l'on a mis en place, d'être que dans ma zone de génie à chaque fois. Aujourd'hui, on est en train de discuter ensemble. Est-ce que c'est du travail? Pas du tout, c'est un réel plaisir. J'adore. Maintenant, la semaine de 4 heures, je ne sais pas si tu connais la petite histoire, mais c'est...
Si,
Tim Ferriss. Voilà, Tim Ferriss, c'est le mec qui bosse le plus au monde, ouais. Peut-être, en tant qu'entrepreneur. Il a juste vu quel titre faisait le plus de clics. Hein. Ouais, donc, 4 heures, c'était bien.
Ouais, ouais. Et quand effectivement... les tâches les moins agréables de ton job représentent 10%, voire 20% de ton temps de travail, tu as réussi à inverser ce qu'on fait habituellement. En général, on dit un bon job, hein, c'est 80% de choses pas très marrantes à faire pour 20% de plaisir. Si déjà tu arrives à inverser ça, c'est énorme. Et c'est là où je comprends pas, moi, venant de l'extérieur, cette espèce de croyance qu'il y a chez les infopreneurs qui à la fois disent... Je veux pas beaucoup travailler, je veux très peu de contraintes, etc. Mais je veux pas de salarié, en fait. Et finalement, ça veut dire que pour eux, dans leur tête, le salarié, c'est qu'une contrainte. Alors qu'en fait, c'est comme ça qu'ils vont se libérer. Enfin, je parle de salarié, ça peut être... Je sais pas d'ailleurs si dans ta boîte, les gens sont tous salariés ou s'ils sont avec des contrats... En plus, ouais, quand c'est dans tous les pays... Mais voilà. Et quelque part... c'est à travers ce que tu vas construire avec eux, l'investissement long terme que tu fais avec eux, que de plus en plus tu vas te libérer et libérer la croissance de ta boîte d'ailleurs.
Bah oui, généralement quand tu libères l'entrepreneur, tu le mets dans une position pour avoir plus d'idées stratégiques, de développement, de croissance externe, ce genre de choses. Et je crois qu'en fait le côté salarié en France, parce que moi j'étais salarié aussi pendant 3 ans avant de lancer la boîte. Et t'as l'image du salarié assez négative en France. Voilà, de la personne qui va t'embêter, la personne, ouais, t'as des coûts. Enfin, mais une fois que t'as passé déjà un, alors surtout quand t'es en ligne, tu peux avoir des contrats freelance hein, pour travailler, mais c'est des membres de l'équipe puisqu'ils travaillent avec toi tout le temps, mais pas à plein temps, tout simplement. Et puis après, comment dire? T'as beaucoup de salariés qui aussi travaillent à distance et qui sont ultra sérieux. Et nous, on a ça dans notre boîte. Alors, bien entendu, nous, dans notre processus de recrutement, on fait aussi des tests pour savoir si ces personnes sont aptes à pouvoir travailler aussi en autonomie, ce genre de choses. Donc là, je veux bien reconnaître que pour certaines personnes, tu vois, il y a un test qui s'appelle en anglais les 4 tendances, 4 tendencies, et qui permet d'identifier chez n'importe quel être humain s'il a besoin de supervision pour bien bosser ou non. Ou si de manière intrinsèque, il peut bosser tout seul ou non. Et, ou les deux, des fois. Des personnes qui ont cette motivation intrinsèque et cette motivation extérieure. Et ça, c'est un test que l'on fait parce qu'on veut, si quelqu'un a besoin de motivation extérieure et toujours quelqu'un derrière lui, ça le fera pas.
Ouais. Les 4 Tendencies, c'est une consultante américaine, je crois, une écrivain américaine qui a développé ça.
Et Gretchen Rubin.
Comment tu dis?
Gretchen Rubin.
Oui, c'est ça. Oui, t'as raison. Ça me revient maintenant. Et c'est par exemple, est-ce que la personne, est-ce qu'elle va plutôt, pour réussir à aller à son club de sport tous les jours, elle va être auto-motivée ou est-ce qu'elle a besoin de dire à ses copines, je vais au club de sport? C'est ce genre de truc. Et oui, donc toi, tu fais ce test-là avant d'embaucher aussi pour être sûr que la personne n'ait pas besoin.
Ouais, mais par exemple, il y a le côté aussi, la personne qui à la fois intrinsèquement ne se motive pas, et d'extérieur non plus, c'est ce qu'on appelle le profil rebelle. Ben ça, le profil rebelle, ça peut être des très bonnes personnes aussi, tu dirais sur le papier, non. Mais sur le papier, si tu arrives à mettre du fun, en fait, dans leurs activités, ils seront incroyables. Donc, tu vois, mais ça, il faut le savoir. Il faut avoir cette intelligence un petit peu de repérer ça chez tes collaborateurs pour pouvoir communiquer de manière bien spécifique aux différentes personnes.
Ouais, ouais, trouver les leviers, en fait, chez chaque personne.
Ouais.
Et... est-ce que tu dirais que... Alors déjà, ce qui m'intéresserait de savoir, tu es en direct avec chacun de tes collaborateurs ou tu as une structure? C'est-à-dire que tu manages des gens qui managent d'autres personnes avec 12 personnes dans ta boîte?
Ouais, aujourd'hui, j'ai ma plus grosse interface, c'est mon CEO. Donc, on pourrait appeler ça directeur ou un profil intégrateur. Il y a différents termes comme ça qui manage. Après, sur certains aspects, par exemple, les personnes, mes coachs dans les programmes, parce qu'on a des coachs dans les programmes, c'est moi qui les manage. Donc, j'ai tendance à. Enfin, j'ai pas plus de 8 collaborateurs en direct.
D'accord, ok. Ouais, parce que c'est souvent une règle que je retrouve hein, dans beaucoup d'équipes. Au-delà de 8, en général, c'est compliqué, en effet.
C'est top.
Ouais. Et donc, vous avez une complémentarité entre toi et cette personne, et ton CEO. Vous n'êtes pas sur les mêmes. Vous n'êtes pas le même genre de personnalité.
Non. Alors, on partage les mêmes valeurs, ça, c'est clair. Maintenant, moi, je vais être. J'aime bien cette analogie de la scène. Quand tu vas voir un spectacle, tu as la personne qui est sur scène et qui est ce qu'on appelle front stage, hein, qui va faire le spectacle, et puis tu as la personne derrière qui pilote tout ce qui doit se passer dans la salle pour que ça se passe bien. À la fois les tickets d'entrée, parce qu'on soit bien assis, la lumière. Donc ça, c'est mon CEO. Et moi, je suis sur scène, et donc j'ai besoin que tout soit en place pour pouvoir produire le meilleur des spectacles. Donc c'est vraiment cette analogie qu'on a tous les deux. Et en fait, tu retrouves ça dans pas mal de boîtes quand tu regardes ce concept, moi j'appelle ça visionnaire intégrateur, c'est issu du livre Rocket Fuel. Tu prends Walt Disney, tu connais Walt Disney l'entrepreneur, mais tu as son frère Roy, c'est lui qui a implémenté toutes les stratégies, finances, tout ça. Donc on ne le connaît pas Roy parce qu'il n'a pas été mis en lumière, mais tu regardes toutes les grosses entreprises, il y a toujours eu ce duo finalement.
D'ailleurs, Roy, ça ne l'intéressait certainement pas d'être mis en lumière.
Non.
Non, je suis d'accord avec toi, ça marche très... En fait, c'est un petit peu dans une boîte, quand tu as un directeur du développement et un directeur des opérations. C'est-à-dire...
c'est ça.
Et ça peut pas être les mêmes profils, sinon ils vont se marcher dessus tout le temps. Alors, c'est amusant ce que tu viens de dire, parce que je suis en train de préparer un petit article, où j'appelle ça la revanche des managers. C'est que, en fait, mon expérience, parce que moi aussi, je dois structurer mes boîtes, parce que je peux évidemment pas tout faire, etc. Et je me dis, les profils difficiles et qui vont se valoriser, et les profils très importants, bien souvent, ça va être plutôt des profils d'intégrateurs que des profils de visionnaires. C'est-à-dire que tout visionnaire a besoin d'un intégrateur pour l'aider à un moment. Et malheureusement, c'est pas ces profils-là qu'on met en avant dans les articles, qu'on met en avant... alors que c'est ceux qui sont difficiles... Et moi, je pense qu'il y a une pénurie d'intégrateurs par rapport aux visionnaires. C'est-à-dire que, pour l'avoir fait, quand tu commences à chercher ton intégrateur, c'est pas facile à trouver. C'est pas facile à trouver.
Non, c'est sûr.
Et parce qu'il faut être un bon manager, c'est-à-dire il faut réussir à bien transmettre le message dans l'entreprise, à coordonner les gens, etc. Il faut être rigoureux sur les process. En fait, c'est lui qui fait tourner la bécane, quoi. Hein. Donc...
Ouais, c'est ça. Et puis c'est un entrepreneur aussi dans l'âme, mais c'est pas un entrepreneur qui sera c'est quelqu'un d'autonome, c'est quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un qui sera qui a besoin de lumière en fait. Alors, le visionnaire généralement, voilà, la lumière c'est ok de passer. Je voyais cette interview de Marc Simoncini qui expliquait que son intégrateur, il est pour mythique, il le gardait précieusement, et finalement toutes les boîtes qu'ils ont pu faire ensemble, ils ont toujours eu cette relation, mais son intégrateur n'est pas connu, enfin beaucoup moins connu que lui en tout cas. J'avais la stat, je l'ai plus en tête, c'est dommage, mais de pourcentage dans les entrepreneurs qui ont ce profil intégrateur. Il faudrait que je le retrouve, parce que c'est vrai que généralement le profil entrepreneur, c'est le gars qui a les idées, c'est le gars voilà, qui saute d'un objet brillant à objet brillant, mais sans structure, on fait pas grand chose. Je suis seul de le retrouver.
Mais je pense qu'on a tous les deux, on a les deux composantes en soi, je pense.
Bon. Ouais.
C'est assez rare d'être 50-50 quand même, mais effectivement, il faut se connaître assez bien soi-même pour savoir qui sera notre parfait complément en fait. C'est ça qui est intéressant.
Toi, tu as ce profil-là dans l'ensemble de tes boîtes aujourd'hui ?
Ah bah pour rien te cacher, je suis en train de chercher quelqu'un, un intégrateur. Ouais.
Ok.
Si tu veux, moi je suis. En tout cas, dans ma boîte, là, on ne parle pas d'outils du manager, dans mon autre boîte, dans mes autres boîtes, j'ai un très, très bon profil intégrateur. visionnaire, ou plutôt développeur, peut-être pas encore visionnaire. Moi, j'ai un rôle vraiment là, dans ces boîtes-là, d'actionnaire. Je suis pas complètement passif, mais je suis de moins en moins dans l'opérationnel. Et il me manque un petit peu dans la structure, hein, il manque effectivement cet aspect-là, quand on a une croissance assez forte, de bétonner derrière et être sûr que, avec la croissance, la qualité de service reste la même, tu vois. Parce qu'en fait, alors là, pour le coup, moi, je connais quelques infopreneurs, dont un qui se reconnaîtra peut-être. J'ai vu ça chez beaucoup d'infopreneurs qui arrêtent pas de développer de nouvelles choses et qui capitalisent jamais sur ce qu'ils ont fait. J'ai en tête une personne, elle se reconnaîtra peut-être, qui avait créé un forum fantastique sur un sujet. Et puis, un jour, elle en a eu marre. Donc, au lieu d'avoir un intégrateur qui aurait continué, ou un système qui aurait continué à animer le forum sans que cette personne ait besoin d'y être en permanence, etc. En fait, elle a fait une espèce de burn-out sur ce sujet-là. Du coup, boum, le truc est tombé. Elle a recréé quelque chose. Et en fait, quand tu regardes sa carrière, eh ben, c'est tout le temps des recréations. Et c'est là où je dis que on a un pourcentage plus ou moins fort entre visionnaire et intégrateur. Si je prends mon cas, parce que forcément j'ai fait un parallèle avec moi, je me suis dit mais comment ça se fait que moi j'ai pas fait ça. Je pense que j'ai une partie intégrateur qui est plus forte que ce type-là et qu'en
non,
fait
tu ferais pas ce podcast et tu ferais pas tout ce sujet.
C'est ça. Et je pense que toi c'est ton cas aussi, sinon tu parlerais pas de structure. Et en réalité les boîtes qui réussissent, c'est celles qui ont deux systèmes qui tournent en parallèle, un système qui j'appelle ça la boule de neige, où en fait on recapitalise en permanence sur ce qu'on sait faire, etc. Il faut que ça tourne, il faut que ce soit bien, etc. Et il faut que tu aies un client ou que tu aies 500 clients, le service reste le même. Donc c'est quelque chose qui va grossir, mais ça va toujours générer plus de cash flow, d'activité, etc. Et un deuxième système, qui est le système de développement, qui continue à chercher des nouvelles opportunités et à ajouter à la boule de neige, en fait. C'est comme ça que je conceptualise
J'adore.
Les choses. Tu vois?
J'adore.
Et t'as besoin des deux. C'est-à-dire, si t'as que un système, parce que ça, je l'ai vécu aussi, où en réalité, on se pose plus de questions et on est toujours sur le même truc qui marche en permanence, petit à petit, ta boule de neige fond. C'est-à-dire que ça arrête, tu fais plus rentrer de nouveaux clients, de nouvelles activités, et bien petit à petit, ça s'érode, il y a une érosion naturelle. Donc, je pense vraiment que dans une boîte qui se développe, il faut les deux. Et tout dépend du dirigeant. Et tout dépend effectivement de lui, est-ce qu'il est plutôt intégrateur, est-ce qu'il est plutôt visionnaire, et est-ce qu'il a trouvé son visionnaire ou son intégrateur, ou les deux, si vraiment il a décidé de passer à un autre niveau. Je pense que c'est comme ça. En tout cas, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que je suis pas persuadé que chez tous les infopreneurs et chez tous les gens qui sont sur le web, il y ait encore cette manière de voir les choses qui existe.
Non. Mais c'est pour ça que ton message, il est clé. Moi, j'ai fait cette découverte un peu par hasard, hein, parce que, comme je te disais, j'ai un profil aussi intégrateur. Et donc, ça a été, moi, d'un point de vue mindset, de me dire, OK, il faut que j'arrive à laisser tomber, entre guillemets, une partie de ma personnalité, qui est celle d'intégration. Ça m'arrive, hein, d'aller dans les process de temps en temps quand même, parce que j'aime ça, ça m'apporte de l'énergie. Pour pouvoir être vraiment dans ce stade de visionnaire, de me dire, il faut que j'ai quelqu'un qui soit encore meilleur que moi en intégration, pour pouvoir lâcher prise. Et c'est là où finalement c'était pas évident, et puis c'est là où certains entrepreneurs, déjà un, n'ont pas conscience qu'un entrepreneur, quand il est seul, il est schizophrène, il est à la fois visionnaire, intégrateur, et qu'il faut savoir lâcher de l'est, et donc après se dire aussi c'est une notion de confiance. Parce que moi je vois beaucoup c'est là où on bloque avec certains membres, hein. Ils connaissent le profil de l'intégrateur, ils connaissent tout ça, mais si tu veux, c'est le côté mindset de se dire ok, je peux, c'est une aventure qui se vit à deux, c'est pas moi tout seul, tu vois. Donc là on est plus sur du développement. Ouais, mindset. Mais une fois, en général, quand on a pris goût et on se dit que quelqu'un chapeaute tout ce qui est à l'intérieur d'entreprise, les process, tout ça, on se dit mais comment j'ai pu faire avant ? Comment
Carrément, c'est ça. En fait, je crois que la meilleure manière de convaincre ces gens-là, c'est de leur montrer l'autre face, quand tu es passé de l'autre côté, comment ça se passe. Et de leur dire, pour être réaliste, tu vas galérer. Ça, peut-être le premier sera pas le bon, mais c'est pas grave, faudra en trouver un deuxième, etc., etc., quand même. Mais tu sais, moi je l'ai vécu même avec des salariés, hein. Moi j'ai un salarié qui m'a dit mais non, moi je peux pas lâcher parce que c'est mon bébé, j'ai peur qu'on me l'abîme, Et sauf que bah, tu te retrouves vite en burn-out parce que tu essayes de continuer à donner le même service alors que ta boîte a doublé de taille. Et que toi, ton temps, il est limité. Ton temps, il fait toujours, tu dis 24 heures. Voilà, là, une journée, un temps de travail au maximum, c'est 100 cubes de 10 minutes, quoi. Hein. Donc, si ta boîte double bah, et que toi, tu veux toujours être aux commandes, tout maîtriser, etc., ça va forcément pêcher à un endroit ou à un autre, c'est certain. Et après, il y a ce moment, effectivement, où tu dis, bah, c'est quoi ma voie, quoi. Est-ce que je suis plutôt vers le visionnaire, le développement, etc., ou est-ce que je suis meilleur dans l'intégration et il me faut un visionnaire. Ça peut être aussi ça. Moi, je l'ai vu, j'ai vu que ça pouvait fonctionner. C'est moins typique chez les entrepreneurs, mais oui. Quand tu gères des salariés, c'est le cas aussi. Ok, Romain, bah écoute, hyper intéressant. Alors, tu nous as parlé de certains outils concrets que tu utilises. Est-ce qu'il y a d'autres outils auxquels tu penses ou sur lesquels tu voudrais revenir qui pourraient... Les gens qui nous écoutent sont autant des chefs d'entreprise que des managers. Mmh. Et ce qu'on essaie de faire à chaque fois dans le podcast, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas, au-delà des concepts qu'on a évoqués, de l'expérience qu'on a évoquée, est-ce qu'il n'y a pas aussi un outil ou deux outils qui pourraient, je dirais, qui pourraient les intéresser, qui pourraient utiliser demain dans leur management, peut-être des choses qui... On a parlé du 15-5, par exemple, qui est vraiment un outil, on peut échanger sur celui-là, mais tu as peut-être d'autres...
J'ai un outil. Alors, ce qui est bien quand tu utilises le mot outil, ça peut être à la fois des outils techniques, mais aussi des outils de mise en œuvre de choses.
Des rituels, des techniques, des méthodes.
Un truc dans les coulisses qui depuis qu'on l'a mis en place, a enlevé beaucoup de frustration pour tous les collaborateurs. Donc ça, je pense que ça peut intéresser. C'est ce que j'appelle les quatre niveaux de délégation. À savoir, nous on utilise comme outil technique Asana pour gérer l'ensemble des projets. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, il y avait cette frustration de t'as beau donner cette tâche à un collaborateur, le résultat final de cette tâche n'était pas forcément très très clair. À savoir que moi, pour certaines fois, on a structuré ce qu'on appelle les quatre niveaux de délégation. C'est que dans chaque tâche, on va dire voilà, quel est le niveau de délégation. Le premier niveau, c'est je te donne cette tâche, fais des recherches, planifie le projet. Mais tu me fais valider avant de démarrer. Parce que la pire des choses, c'est d'envoyer un truc, la personne, elle veut tellement bien faire, elle est partie bien en tête, mais en fait, t'es parti dans la mauvaise direction. Donc, tu vois, si je dis que c'est une tâche niveau 1, le niveau de délégation 1, ben, la personne sait, OK, je vais faire mes recherches, je vais revenir vers Romain, et on va pouvoir discuter de la suite. Le deuxième niveau de délégation, c'est voilà la tâche, voici le projet. Mets en place le projet, mais tu me donnes des updates réguliers. Tu vois, je veux pas que tu partes, voilà, tous les 3 jours, la semaine, tu fais un update, comme ça, on peut ajuster ensemble. Troisième niveau, c'est tu mets en place le projet et tu me partages simplement le résultat final. Et quatrième, c'est tu mets en place le projet, t'as pas besoin de m'en parler, tu peux y aller les yeux fermés. Et ça, en fait, ça a deux avantages. Le premier, c'est que la personne sait exactement ce que j'attends d'elle. Et moi, ça m'apporte ce côté, en fonction des collaborateurs, en fonction de leur expertise, de leurs compétences par rapport à tel ou tel projet, ça me permet en fait de déléguer, de bien déléguer. Je sais que je ne vais pas déléguer un niveau 4. Un niveau 4, c'est je te lance le projet, faisant ton retour à quelqu'un qui va être junior ou quelqu'un qui démarre qui est en train d'affiner encore ses compétences sur le sujet. Là, non, je vais mettre un niveau 1, on va accompagner dans l'implémentation. Et simple outil, c'est juste dans la tâche, on met niveau 1, 2, 3, 4 et ça, c'était vraiment génial.
Oui, ça donne une grande clarification de part et d'autre. Là, ça réduit les frictions de communication. Et est-ce que tu évalues tes collaborateurs en fonction de leur... est-ce que tu leur donnes un niveau aussi intrinsèque à chaque collaborateur? C'est-à-dire de dire, tu vois, là, pour l'instant, tu es niveau 1, j'aimerais bien que tu montes vers le niveau 2 ou non, c'est juste pour...
Si. La clé c'est de faire le maximum de niveau 4 pour tout le monde.
D'accord. forcément. Ça a tous les avantages. Toi, ça te permet d'être libéré par rapport aux choses et d'avoir confiance. Sans avoir à faire trop de reporting, etc. Puis c'est là que ton collaborateur il accède au statut de héros, c'est-à-dire je l'ai fait quoi, je suis allé jusqu'au bout, j'ai fait tous les choix, j'étais un mini entrepreneur dans ma boîte.
Exactement.
Quoi. Hyper intéressant.
Tout part effectivement de la confiance. Tout part de la confiance. Justement, tu l'as mentionné, c'est quand tu fais ça, tu sais que tu délègues avec confiance en fait. Et c'est parti de ça. C'était à la fois moi je ressentais le côté je te donne ça, mais je sais pas ce que tu vas en faire. la personne quand elle reçoit un niveau 4 elle se dit Romain il a confiance en moi que j'ai les capacités de le faire et tout ça, donc je vais vraiment m'y donner.
Et ça, la confiance pour un, quelqu'un qui a un profil ingénieur ou un profil peut-être, on appelle ça consciencieux en disque, c'est une grande découverte. Moi, je sais que les gens avec lesquels j'ai plus de mal à les laisser lâcher prise, etc., c'est des gens qui ont un profil un peu ingénieur parce que tout se contrôle. Je veux dire, tu mets des boucles de feedback sur une machine, etc., etc. Et là, tout d'un coup, tu découvres que ben, des fois, c'est même plus la peine parce que la confiance est établie et que c'est ton collaborateur qui va ressentir s'il a besoin de toi ou pas. C'est plus toi qui va essayer en permanence de voir s'il a besoin de toi, quoi. Donc, c'est intéressant. Et puis, c'est le levier ultime, la confiance dans l'entreprise. Je suis d'accord avec toi à 100%. Bah, la confiance coûte moins cher que le contrôle.
Exactement. Et puis, moi, j'ai pas de temps à perdre à contrôler, en fait. Je vais pas avoir un profil de contrôle, d'ailleurs. C'est un de mes profils. J'aime beaucoup contrôler les choses. Donc, je travaille, moi, sur ma flexibilité, sur le lâcher prise. Mais en fait, le lâcher prise, il se fait évidemment tout de suite quand la confiance est installée. Et cette confiance, elle démarre déjà avec les valeurs cœur dans le recrutement dès le démarrage, tu vois.
Exactement.
On boucle hein, encore dessus. Mais...
C'est sûr. Bien recruter, c'est bien manager. Donc, c'est plus quand tu as choisi. OK, hyper intéressant. Je te remercie. Je te remercie infiniment pour la discussion. Est-ce que, alors, pour te retrouver, te joindre sur comment ça se passe? C'est sur ton profil LinkedIn, c'est sur...
Alors, je suis très peu actif sur LinkedIn. Par contre, tout simplement, le site Romain Collignon avec deux L.com. Et là, dessus, on a les deux programmes dont j'ai parlé en début de podcast. On a un blog, on a des vidéos, on a des interviews. Donc voilà, si ton audience souhaite voir un petit peu plus que ce que l'on fait, c'est le site.
Bon, en fait, ce que je fais, c'est que... Je mets des infos en description du podcast, mais elles sont pas toujours très, selon les plateformes, ça paraît bien. Là où vous pouvez vraiment retrouver tous les liens qu'on mettra, c'est sur le forum outils du manager. Parce que là, j'ai de la place. Hugo va mettre le lien de ton site, etc. Et puis, parce que souvent, il y a des discussions qui peuvent, autour des concepts qu'on a évoqués, avoir lieu sur le forum. Donc, c'est là que vous aurez le plus d'infos. Alors je trouve très très bien qu'on ait terminé par la confiance. Est-ce que tu as un dernier message que tu voudrais passer?
Autour de la confiance?
Bah déjà, je trouve que c'était une belle conclusion.
C'est une belle conclusion. Mais peut-être un dernier message qui va paraître... En tout cas, moi, c'est mon expérience en tant que manager parce que je ne me suis jamais dit que j'ai la casquette de manager. C'est un petit peu une nécessité qui est apparue et sur lequel... C'est un gros mot pour moi, mais sur lequel maintenant je mets beaucoup, beaucoup de plaisir, tout simplement parce que le manager, c'est aussi un leader tu vois, qui fait en sorte qui investit dans ses équipes, qui investit dans les membres de son équipe et qui les fait grandir. Et moi, depuis que je me suis mis avec cette casquette-là, en fait, je prends beaucoup de plaisir à voir, dès que je peux aider, dès que je peux coacher, dès que je peux offrir un outil qui va permettre aux membres de l'équipe d'être soit plus performants, d'avoir plus de résultats, de passer... du meilleur temps et de développer personnellement, c'est depuis ce temps-là que moi, le mot manager, c'est devenu un mot que j'apprécie énormément.
Bon, super. Super conclusion. Merci beaucoup. Et puis, à une prochaine fois.
À très bientôt, Cédric.
Très bonne journée à toi. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné, toi aussi, envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outilsdumanager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit. Ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager, www.outilsdumanager.com. À bientôt. Au revoir.